modifier le truc là. Ça, tu le mets ailleurs.
Non, pardon.
C'est vrai que.
Vous êtes effrayé. Hein.
Ça va augmenter aussi. Mais
je sais pas si ça va. Pour moi, ça va. Ça va. Si ça va pour vous. Sachant que c'était mon tour de partager un message aujourd'hui, mais depuis un bout de temps, je le sais, et puis je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut partager? Qu'est-ce que, je ne sais pas qui sera là, quels sont les besoins, je ne connais pas vos besoins du moment. Qu'est-ce que le Seigneur a envie de nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur a envie qu'on entende? Et c'est une profonde recherche durant plusieurs semaines jusqu'à, comme ça, ou des idées, que ça se mette un peu en place, tout ça. Alors quand Adrien m'a envoyé son mail l'autre jour en me disant « Mon introduction, ma présidence sera sur Luc 12 et ce qu'ils viennent de partager », je me suis dit « Alors, c'est vrai, véritablement, on pourrait penser que c'est une coïncidence. Mais ces coïncidences qui se répètent trop souvent, pour finir, c'est plus des coïncidences. » Donc il doit y avoir vraiment quelque chose de particulier, une aide, un Seigneur par derrière qui dirige les choses lorsqu'on est dépendant de lui, lorsqu'on s'attend à lui pour l'exprimer de la manière qui lui correspond, de la manière selon le besoin du moment. Alors, si c'est le modèle, c'est Aaron, voilà, tu nous donnes la réponse pour commencer. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer pour vous poser une devinette. Maintenant, vous avez la réponse, mais...
On n'a pas lu.
Vous n'êtes pas venu, d'accord. Alors, la question, c'est... J'ai allumé des incendies, j'ai provoqué des accidents sans nombre, des déraillements, des chutes d'avions, des inondations, j'ai fait couler le sang, j'ai engendré des famines et des épidémies, mais je ne suis ni la guerre, ni la révolte, ni la haine, mais qui suis-je? Alors, vous avez vu la réponse. Effectivement, mais c'est peut-être pas là qu'on irait chercher ce qui nous viendrait à l'idée pour commencer. On voit des catastrophes, des calamités, des énormes choses désagréables, et puis finalement qui peuvent être engendrées par une simple négligence. Un tout petit mégot qu'on néglige de jeter par terre peut engendrer des incendies monumentaux comme on les a vus l'année passée. Mais il y a d'autres choses qu'on peut négliger dans notre vie. Et notamment, puisqu'on est là devant le Seigneur, eh bien on est invité à ne pas négliger un si grand salut. Un petit mégot, c'est peu de choses, mais le salut qu'on est invité à prendre en considération, c'est vraiment une grande chose, c'est un grand salut. Et ce salut nous dit qu'on le connaît parce qu'il nous a été annoncé, mais il nous a été annoncé par la nature, qu'on peut observer, et qui rend que, d'après le premier chapitre de l'Épître aux Corinthiens, aux Romains, pardon, nous a dit qu'on est inexcusable devant la manifestation de ce que Dieu a créé. Mais ça a aussi été annoncé par le Seigneur d'abord, qui est venu sur terre, qui a partagé ce qu'il allait payer à la croix, ce qu'il allait subir, qu'il a subi en réalité. Ce salut qui est tout compris, tout complet, il nous a été annoncé donc par le Seigneur, et non seulement par le Seigneur, mais nous aussi annoncé par tous ceux qui ont acquis ce salut et qui l'ont transmis de génération en génération. Déjà les apôtres, puis ensuite une génération après l'autre, ce salut a été perduré, a été réannoncé, redistribué et mis à disposition d'une génération après l'autre. Donc, on est inexcusable, mais on peut simplement le négliger. Négliger en disant, ouais, c'est vrai, il faudra peut-être que je m'en occupe une fois, mais plus tard maintenant, aujourd'hui j'ai pas le temps, puis demain c'est autre chose, puis après les années passent, Et puis un jour, on va se retrouver devant le Seigneur, et ça serait catastrophique qu'on ait simplement négligé. Donc par notre attitude de négligence, on peut s'attirer de grands ennuis, et des ennuis bien pires qu'un feu de forêt, parce que c'est des ennuis qui peuvent être durer éternellement. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas négliger ? Où est-ce qu'il faut aller chercher des indications pour découvrir qui est ce salut ? Eh bien, on peut le découvrir principalement donc, par la transmission de ceux qui l'ont réalisé, en ajoutant foi à leur témoignage, mais principalement au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Alors, il y a de nombreux passages, j'en ai choisi un ou l'autre que j'aimerais essayer de considérer avec vous. Par exemple, merci, ça va plus vite que... Ce passage ici, dans 2 Pierre 1, les deux premiers versets, qui nous dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » C'est un peu une introduction à ce que Pierre va développer. Et on voit ici que Simon Pierre, l'apôtre, a reçu le salut de Jésus-Christ et il nous le transmet. Alors, ne négligeons pas cette transmission. Ce qui est frappant ici, c'est que nous avons reçu une foi. Et cette foi, je ne sais pas si on en est conscient, mais elle a la même valeur que la foi de l'apôtre Pierre. C'est donc pas, on peut facilement la négliger, la mépriser, et dire ma foi, c'est une petite foi de rien du tout, ma foi, elle vaut rien. Mais le Seigneur, Pierre ici nous dit, vous avez reçu une foi qui a la même valeur que celle que l'apôtre Pierre lui-même a reçue. Donc c'est du sérieux. Et comment est-ce qu'on l'a reçue ? Parce que par la justice de notre Dieu. Dieu est juste en nous justifiant. Il n'est pas juste vis-à-vis de nous-mêmes puisque nous avons péché, puisque nous sommes éloignés et séparés de lui. Mais il est juste vis-à-vis de Jésus-Christ qui a payé le prix indispensable pour que nous puissions, pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Et cette justice de Dieu, elle a été satisfaite. Et c'est cette justice-là, accomplie par Jésus-Christ, par le Sauveur, qui nous est attribuée, avec laquelle on peut compter. Ce qui m'intéresse ici aussi, c'est de voir que tout d'abord Jésus est le Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, on voit qu'il est le Seigneur. Mais entre deux, Simon Pierre, l'apôtre Pierre, nous souhaite la multiplication de la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix. La grâce, c'est une faveur imméritée. On n'a rien fait pour la recevoir, on n'a rien fait pour la mériter, je dirais même bien au contraire. La grâce, dans notre monde, selon les lois, elle est donnée à quelqu'un qui est coupable. Un jour, quelqu'un a demandé à plaider en faveur de la grâce d'une personne qui était emprisonnée, et il lui a été répondu, on ne peut pas le gracier parce qu'il ne s'est jamais reconnu coupable. On ne peut pas gracier un innocent. Il faut, pour pouvoir bénéficier de la grâce, il faut un jour reconnaître que c'est nous qui sommes les coupables et qu'on mérite le jugement, et alors la grâce peut nous être attribuée. Maintenant, la grâce, on ne peut pas l'imposer non plus. Quelqu'un à qui on offrirait la grâce, il peut dire non, non, je veux, je veux subir le châtiment, que je veux réparer mes fautes, et puis je veux me débrouiller tout seul, et puis je ne veux pas qu'on me fasse des faveurs comme ça, ça serait peut-être humiliant. Mais on peut la refuser. Mais la grâce de Dieu, on peut aussi la négliger en la refusant, ou en disant que finalement, on n'a pas besoin, qu'on peut très bien se débrouiller tout seul, et puis que ça ira bien, qu'on va bien s'en arranger tout seul. Et la paix. La paix, c'est pas un sentiment. Dans Éphésiens 2, au verset 14, il est dit, il est notre paix. Jésus est notre paix. La paix que Dieu veut nous donner, c'est pas seulement un sentiment d'une espèce de béatitude où tout baigne, mais c'est une personne. Et cette personne, elle nous donne la paix en ce sens qu'elle est avec nous au travers des difficultés, qu'elle nous accompagne dans les épreuves de la vie, et ça permet au celui qui l'a reçu d'être en communion avec Dieu et d'être en paix même dans les épreuves. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 1, il est dit « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix, c'est l'opposé de la guerre. On n'est pas en quinconce, on n'est pas en querelle avec Dieu à cause de Jésus-Christ qui a arrangé les choses, qui a payé nos fautes, qui a arrangé les bidons, comme on dit. Eh bien, en vertu de l'œuvre de Christ, on peut être en paix. Dieu est en paix avec nous. Il n'est plus en guerre, il ne nous en veut plus, parce qu'il est juste vis-à-vis de la justice accomplie par Jésus-Christ. Maintenant, ces deux éléments, la grâce et la paix, il nous est dit ici, qu'elles vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Multiplier. Dans l'arithmétique, on a quatre opérations. On peut additionner, ça augmente, gentiment, mais ça augmente. On peut soustraire, dans ce cas, ça diminue. On peut diviser, on fait des plus petits morceaux, mais on peut multiplier. Et multiplier, ça augmente très vite. Si on multiplie un objet, enfin, un chiffre par 0, ben, on a le statu quo, c'est la même chose. Par 1, ça reste aussi identique. Mais par 2, ça double. Par 3, ça triple. Par 4, ça quadruple. Et très rapidement, ça augmente. Très rapidement. Eh bien, pour une multiplication, il faut deux facteurs. D'un côté, on a ici la grâce et la paix, qui peuvent être augmentées, qui peuvent être multipliées par le deuxième facteur, et ce deuxième facteur, c'est la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. On vient de chanter « Connaître le Seigneur », n'est-ce pas ? Eh bien voilà, le moyen d'augmenter notre paix, d'enrichir la grâce et d'augmenter la paix avec Dieu, par la connaissance. Plus on connaît le Seigneur, plus on va découvrir qui est Jésus, qui est Dieu, plus la paix, plus la grâce vont être puissantes en nous, vont nous submerger et nous déborder. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la connaissance ? Alors, on va aller dans ce verset. Comment augmenter la connaissance ? Alors, j'ai pensé à ce verset qui dit que ce qu'il est là. Dans Corinthiens 8, la connaissance enfle, l'amour édifie. Bien, il faut avoir de la connaissance ou pas avoir de connaissance. Mais il se trouve que, en fait, en français, on utilise le mot connaissance pour toutes sortes de mots qui sont dans l'original de la Bible, qui n'ont pas toujours la même signification. Cette connaissance qui enfle, puis qui fait de nous des gens importants, c'est une connaissance qui est basée sur l'intelligence, une connaissance scientifique, une connaissance historique, une connaissance qui est basée sur la science. On sait, on a connu, Mais cette connaissance-là qui est extérieure à nous, cette connaissance livresque des livres et puis de ce qu'on peut... on attrape la grosse tête, quoi. C'est pas cette connaissance-là dont on a besoin pour que notre paix et notre la grâce de Dieu soient augmentées. Cette connaissance ici, qui peut être augmentée, c'est une connaissance précise, correcte, des choses morales et divines. C'est en fait une appréciation du prix payé à la croix. Et puis c'est l'appréciation qui va donner de la valeur à la grâce. Plus on prend conscience de l'état de perdition dans lequel on se trouvait, plus la grâce va être grande. Plus on est conscient de ce que Christ a payé pour nous, plus notre paix va être aussi multipliée. Donc la paix et la grâce sont là, mais on peut en avoir une plus grande appréciation en se penchant, en essayant de découvrir qui est Christ, d'avoir une meilleure connaissance de Jésus-Christ. Et la grâce, elle a encore un autre effet. Dans Tite, la grâce, dans Tite 2, il nous est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Plus cette grâce va nous imprégner, plus aussi ça sera facile et ça va devenir spontané pour nous de vivre une vie qui corresponde à ce que le Seigneur attend de nous. Maintenant, voilà, il faut apprendre à connaître le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut apprendre à le connaître mieux, sinon au travers de la Bible? Alors j'ai sorti quelques versets où Jésus parle. Parce que, en fait, la dernière fois que j'ai partagé ici devant, je m'étais basé sur une parole un peu dure que le Seigneur utilise. Quand les deux disciples d'Emmaüs sont sur le chemin s'éloignent de Jérusalem, Jésus les rencontre et puis Jésus va leur dire « Homme de peu de foi, lent à croire ce que... » Mais c'est des disciples, et Jésus leur dit ça, et puis on n'est pas tellement dans ces paroles, et je me suis dit, Jésus n'a pas seulement cet aspect-là, alors chercher des paroles de Jésus qui sont plus positives, plus encourageantes, qu'on aime mieux entendre, qu'on aime bien avoir un Jésus qui pardonne, un Jésus qui encourage, un Jésus qui console, un Jésus qui guérit, ça on aime bien. Mais Jésus n'est pas que ça. Mais alors je me suis dit, on va d'abord commencer par voir quelques paroles de Jésus encourageantes. Et j'en ai listé quelques-unes, je ne sais pas toutes, il y en a beaucoup plus que ça, mais quelques-unes là pour avoir une base. Dans la première, Marc 5, c'est l'histoire de Jaïrus. Sa fille était en train de mourir, cet enfant de 12 ans, et il va désespoir de cause, chercher de l'aide auprès de Jésus. Jésus dit, pars avec lui, et puis il y a un contretemps, et puis quelqu'un vient depuis la maison de Jaïrus, lui dit, arrête, oublie, c'est trop tard, elle est morte. Et là, dans cette espèce de désespoir, eh bien c'est là que Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement. En fait, quasiment chaque fois où Jésus dit ne crains pas, ne pleure pas, n'aie pas peur, il le dit à des gens qui sont au bout de leurs possibilités, qui sont désespérés ou pour lesquels il n'y a plus d'espoir. Dans Luc, il parle à Luc 12, le 2, ne craignez point, vous allez plus que beaucoup de passereaux. Ou celui-ci, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, c'est des versets qui sont quasi l'un à côté de l'autre. Dieu parle à ses amis, à ceux qu'il a autour de lui. Et puis, ils sont devant de difficultés. Jésus va aller à la croix, ils vont être laissés seuls. Jésus le sait, et puis il les encourage. Ne craignez point, une nouvelle fois, vous allez plus que beaucoup de passereaux. Et puis l'autre, vous êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Au travers des persécutions qui allaient venir, eh bien Jésus les prépare, il leur dit, là je serai avec vous, ne craignez pas ce genre de situation. Entre deux, il y a la veuve de Naïn, où cette veuve, elle a déjà perdu son mari, maintenant elle perd encore son fils unique, tout est fini pour elle, elle n'a plus aucun espoir, elle n'a plus aucun soutien, elle est au-devant d'une élan quasiment. Et Jésus la voit, et c'est là qu'il va lui dire, ne pleure pas, et qu'il va ressusciter ce jeune homme. Il y en a beaucoup d'autres. Ça, c'est les paroles, disons, de Jésus, et auprès de gens qui sont désespérés, auprès de gens qui n'ont pas d'espoir, Jésus est leur seul espoir. Et à ces gens-là, lorsqu'on s'approche du Seigneur dans ces conditions, pas avec la possibilité de s'en sortir un peu soi-même, mais désespérés, on attend tout du Seigneur, eh bien, dans ces conditions, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Mais un témoin, on lui demande de dire toute la vérité, on lui demande de dire que la vérité, mais toute la vérité pour témoigner. Et cet aspect-là, c'est valable pour ce genre de catégorie de gens. Mais le Seigneur, il a aussi d'autres paroles pour ceux qui lui résistent, ou pour ceux qui se croient meilleurs que les autres. Et voilà, ici. Alors Jésus leur dit, c'est les disciples d'Emmaüs, je viens d'en parler, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Pour Jésus, être sans intelligence, c'est être lent à croire. Être lent à croire, c'est un manque d'intelligence. Mais de croire ce que Jésus dit, bien entendu. C'est des disciples, c'est aux disciples que Jésus dit. Et ils sont sur un mauvais chemin, ils perdent pied. Jésus va les trouver, mais il ne va pas leur dire, ne craignez pas, tout va bien, on va s'arranger. Non, il les reprend. Et Jésus a aussi le droit de nous mettre devant nos responsabilités, devant nos errements, devant nos erreurs. À Pierre, un autre apôtre, « Arrière de moi, Satan », je ne sais pas si vous aimeriez entendre ça de la part de Jésus. Et pourtant, Pierre était pleinement en train d'être compatissant vis-à-vis du Seigneur. « Ce n'est pas comme ça que ça va se passer, on t'attend comme un sauveur, comme celui qui va pousser dehors les Romains, qui va délivrer le peuple d'Israël. » Mais ce n'était pas le plan de Dieu, et on peut avoir quelquefois aussi des idées qui paraissent tout à fait logiques et tout à fait bonnes, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu, et on doit aussi être capable d'entendre Jésus nous dire « Stop, là tu parles contre moi. » Les scribes et les pharisiens, le suivant là, non. Aussi, Jésus, c'était les spécialistes de la loi, c'est eux qui connaissaient le mieux la Torah, et puis les lois, et puis le principe de l'Ancien Testament, la manière de vivre, d'offrir des sacrifices. C'était des gens qui étaient au top, mais ils en avaient fait quelque chose de tellement religieux que Jésus doit les sermonner, là, de pharisiens hypocrites. Je ne veux pas tellement que le Seigneur un jour me dise d'un hypocrite. Le fait vous faites pour l'apparence de longues prières, mais en même temps vous cherchez votre intérêt, l'intérêt financier aussi, etc. Et puis plus loin, il va même les traiter de race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? On voit que le Seigneur Il cherche toujours notre bien, soit en nous encourageant quand on est désespéré, quand on n'a plus d'espoir, on peut s'approcher de lui, il va nous encourager, ne crains pas, ne pleure pas, n'aie pas peur. Mais pour ceux qui se prennent la grosse tête, pour ceux qui veulent savoir mieux, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, ou qui veulent gérer les choses à leur manière, mettre leurs idées, faire passer leurs idées qui pensent être religieuses, qui pensent être bonnes, eh bien on risque de rencontrer un Seigneur qui va nous dire « t'es un hypocrite » ou « voire race de vipère ». Alors à nous de savoir apprendre à connaître le Seigneur pour que notre paix augmente, se multiplie aussi et avoir les bonnes attitudes. Ésaïe 66, j'y ai appris les versets. Hein. Il nous donne un peu une conclusion là. C'est à celui que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble ma parole. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous, pas d'être des je sais tout, mais d'être là. C'est vrai, je pense, mais peut-être que je me trompe, être prêt à avoir tort, à se tromper ou à rectifier notre façon de voir pour l'adapter. Je pense, bien sûr que je pense, mais ça ne compte pas ce que je pense. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur pense. Je dois remplacer, mettre en priorité la pensée du Seigneur et chercher à connaître cette pensée du Seigneur plutôt que de m'entêter à penser après tout, je peux bien, et puis ça se passe comme ça. Parce que l'attitude de Jésus, il a aussi fabriqué un fouet un jour. Hein. Dans Marc et dans Jean, on le retrouve, les marchands du temple qui utilisaient l'annonce de l'évangile pour s'enrichir. Eh bien, ils utilisaient les brebis, ils utilisaient les éléments qu'il fallait offrir en sacrifice. Et en fait, en passant, ben, ils se remplissaient les poches. C'était leur fonds de commerce, c'était leur job, eh bien, pour ces gens-là, qui n'étaient finalement pas des athées, qui se vautraient dans le péché, eh bien, pour ces gens-là, le Seigneur n'a pas été tendre. Apprenons à connaître le Seigneur, avoir la bonne attitude pour pouvoir le rencontrer comme celui qui nous encourage, comme celui qui nous console, comme celui qui nous dit « n'ayez pas peur ». Parce que comme on l'a entendu, le Seigneur est proche, le Seigneur va revenir, et la qualité de notre paix, on peut la modifier aussi, on peut l'amplifier par les bonnes attitudes. Si j'ai encore quelques minutes, on a dit avec Adrien combien... De mon côté, j'avais pensé à la négligence, à ne pas être négligent, et de lui, de son côté, à penser à être prêt, à se préparer, comme les choses peuvent correspondre. C'était pas par hasard, parce que c'est une chose qui se répète assez régulièrement. Si on pense à dimanche passé, c'était exactement la même chose. Cyril avait préparé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sa présidence, le pharisien et puis le publicain qui vont au temple, un qui croit tout savoir, un qui se vante, qui est rempli de lui-même et qui n'est pas justifié, et puis l'autre qui est désespéré, qui n'est pas fier de lui, mais qui peut recevoir la justification à cause de son humiliation. Et François qui avait partagé, et ça m'a impressionné, ces trois croix, où le même principe, hein, deux croix, Jésus au milieu, qui fait en fait une séparation entre ces deux brigands. Ces deux brigands, on peut facilement imaginer qu'ils étaient copains. Ils devaient faire partie du même gang, ces gangsters. ils reconnaissent qu'ils ont ils sont crucifiés parce qu'ils ont fait des mauvaises choses. Un va même reconnaître qu'ils ont commis des crimes. Et ils sont là, c'est les mêmes. On ne peut pas dire lui il est un peu mieux, puis l'autre il est un peu moins bon. On peut les échanger, ce serait exactement la même chose. Mais Jésus au milieu, ça va produire une séparation. Et puis, la présence de Jésus là, un des deux brigands, qui n'est pas meilleur que l'autre, mais va reconnaître son tort, et puis Jésus va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et l'autre, qui n'était pas pire, et il ne sera pas dans le paradis, il sera perdu. La présence de Jésus va faire une séparation dans nos vies et entre nous. Est-ce qu'on veut accepter que Jésus nous reçoive dans le paradis ou bien pas? C'est notre choix. On peut augmenter, multiplier la paix et la grâce ou simplement s'en priver. Ça dépend de nous. Et ça dépend de nous, chaque jour de la semaine. Et ça a une grande importance. On peut négliger une telle priorité et puis finalement tout perdre. Alors à nous de savoir, d'être assez conséquents pour prendre les bonnes dispositions, pour prendre les bons choix, et pas voir un Jésus qui est simplement bon, tellement bon qu'il est bonbon, mais d'avoir un Jésus qui est saint, qui a un aspect qui est complet, qui donne, mais qui donne à celui qui s'approche de lui, et qui celui qui refuse, on peut refuser. Alors, à nous de choisir et de faire les bons choix. Que Seigneur nous fasse la grâce, pas seulement une fois dans la vie, mais régulièrement, chaque jour, d'aller faire notre petit tour à Golgotha, et puis de voir de quel côté de Jésus est-ce qu'on va se trouver, pour pouvoir justement augmenter, multiplier notre paix et la grâce du Seigneur pour nous. Amen.
Amen.